Bon dimanche. Ça va bien ce matin pour vous? C'est bien. Le livre d'Enoch a été contesté, et il est encore contesté par des théologiens. Ils disent que c'est un bonhomme qui a écrit au deuxième siècle après Jésus-Christ, que c'est pas vraiment Enoch. Ah bon, comment ça se fait alors que Jude cite Enoch? Mais c'est parce qu'il avait le livre. Et voilà, deux siècles après Jésus-Christ, voilà, ça c'est l'intelligence de certains théologiens, la majorité. Les autres se taisent, ils disent rien parce que ils veulent pas avoir d'histoire. Vous savez, si on a une histoire dans une église, on est viré, hein. Chez nous aussi d'ailleurs. Mais enfin bon, faut que ça soit grave, faut que ça soit vraiment quelque chose de grave. Et le truc, c'est que on a retrouvé des extraits du livre d'Enoch dans les manuscrits de la Mer Morte, qui datent de 200 à 300 ans avant Jésus-Christ. Alors là, les théologiens, ils parlent plus trop. Ils osent plus, hein, parce qu'ils ont l'air un peu ridicules. Mais ils ont le droit d'être ridicules, hein. Tout le monde a le droit d'être ridicule. Ce qui est dommage, c'est de le rester, de s'entêter dans le ridicule et dans l'erreur. Donc Enoch, lui, il n'a pas seulement écrit la phrase qui se trouve dans la lettre de Jude, mais il a écrit tout un livre, et j'ai écrit un livre que vous pouvez trouver sur le site Révélation Bible, qui s'appelle Paroles cachées. C'est le livre d'Enoch avec les commentaires que j'en fais. Et je vous le recommande, c'est pas cher puisque c'est en PDF, ça coûte rien. Alors, Enoch a vu, entre autres, parce qu'il était, vous savez que la Bible nous dit qu'il était enlevé, et il a vu des choses dans le ciel formidables, et il a vu 12 portes en particulier. Et je vais vous lire dans Enoch chapitre 74, au verset 1, « Aux confins de la terre, je vis 12 portes pour tous les vents qui s'en échappent de temps en temps pour se répandre sur la terre. » Par quatre d'entre elles sortent des vents de guérison et de bénédiction, de renaissance pour la terre, et par les huit autres sortent des vents de châtiment, de désolation. Lorsqu'ils sont envoyés, ils apportent la ruine à toute la terre et à l'eau qui est sur elle, et à tous ceux qui l'habitent, et à tous ceux qui sont dans l'eau et sur l'aride, c'est-à-dire sur le continent. Et au verset 13, et la dernière porte, donc il décrit ces 12 portes et leurs fonctions. Et la dernière porte, qui est au midi de cette porte-là, sortent la sécheresse, la ruine, la chaleur et la perdition. Enoch nous parle d'une porte dans ce verset 13, la dernière, qui est au midi, et derrière cette porte sortent la sécheresse, la ruine, la chaleur et la perdition. Le dimanche 1er décembre 2024, je vous ai mis, déjà quelques jours avant, je crois deux jours avant, un avertissement sur Révélation Bible sur Facebook, vous disant que toute la communauté allait être en prière le 1er décembre 2024, et je vous écrivais pour vous dire que c'était à 7h22. Dans la communauté que nous allions prier, et je vous invitais à vous joindre à nous dans la prière, parce que nous trouverons aussi dans Enoch qu'il y a des moments où c'est des moments stratégiques pendant lesquels il faut prier. Alors je vais vous dire une chose, les satanistes, les sorciers et compagnie sont plus au courant que les chrétiens de toutes ces choses, et ils se réunissent à ces moments-là, pour maudire vos familles, pour maudire votre église, pour maudire votre pays, pour maudire, enfin voilà. Et puis nous, pendant ce temps, les chrétiens, on dort. C'est dommage. Nous, heureusement, merci Seigneur, on a eu la révélation de tout cela. Pour quelle raison à cette heure et à cette date? Pourquoi le 1er décembre 2024 à 7h22? Parce que nous sommes avertis par le livre d'Enoch que les portes du temps s'ouvrent à certains moments. Elles s'ouvrent particulièrement aux équinoxes, aux solstices, à la pleine lune et aux nouvelles lunes, pour laisser passer des entités plus ou moins bienfaisantes. Il y a des entités qui sont bienfaisantes aussi. Derrière ces portes, ces entités concoctent des plans, et puis à ces moments-là, elles s'ouvrent ces portes, donc à l'équinoxe, solstice, etc. Elles s'ouvrent, et puis les êtres qui sont là derrière et qui ont concocté des plans descendent sur la Terre pour les mettre en pratique. Alors, c'est plus facile. C'est vrai qu'il faut prier en tout temps, mais c'est plus facile de se tenir devant ces portes au moment où elles s'ouvrent pour repousser nos ennemis derrière leurs portes, plutôt que d'attendre qu'ils aient bien semé la pagaille sur la terre. Non, qu'est-ce que vous en dites? Les chrétiens n'en disent rien parce qu'ils ne savent pas. On va lire Ésaïe, chapitre 28, 5, 6. Ésaïe 28, 5, 6. Voilà ce qui est dit. En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Le Seigneur est une force pour nous qui repoussons les ennemis derrière leurs portes. La communauté, et d'autres chrétiens fidèles qui écoutent ce que je dis, qui croient à ce que je dis, ont prié pour repousser les ennemis derrière leurs portes, les ennemis des familles. On a tous dans nos familles des gens un petit peu qui nous font des problèmes. Au travail, on a des collègues, voilà, dans la nation, dans le monde, et on peut avoir un pouvoir pour pouvoir les empêcher de faire des choses. De toute façon, ils ne peuvent pas faire les choses que Dieu ne leur permet pas, mais il est bon d'être à côté de Dieu pour prier et pour intercéder. Dieu nous a entendus. Il n'y a qu'à observer ce qui s'est passé en une semaine sur cette terre. C'est pourquoi on ne se fait pas de soucis à ce qui va arriver. Parce qu'on a prié et on sait que Dieu est avec nous parce que nous sommes avec lui dans le combat. Les démons se tenaient derrière cette porte du milieu dont parlait Enoch et ils avaient des plans machiavéliques. Mais nous les avons empêchés de venir sur Terre pour mettre leur plan en action. Bon, ils ne peuvent pas faire, je répète, ils ne peuvent pas faire les choses que Dieu ne leur permet pas. Et le 4 décembre 2024, l'Assemblée nationale en France a voté à 331 voix la motion de censure du gouvernement. Et je ne sais pas si vous savez que cette nuit, la nuit de, donc une semaine après, la nuit du 7 au 8 de ce mois, Bachar al-Assad a fui la Syrie, un véritable tyran. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça va être mieux? Ça ne nous regarde pas. Nous avons repoussé les ennemis derrière leurs portes, ils sont coincés derrière leurs portes au nom de Jésus, c'est tout ce qu'on veut. Nous avons confiance en Dieu parce que nous avons prié. Nous lui avons demandé humblement que sa volonté soit faite. Et qui peut aller contre la volonté de Dieu ou contre ce que Dieu permet? Maintenant, que faire? C'est ça la question, que faire? Eh bien, ne pas avoir peur. Ne pas se plaindre. Beaucoup de gens se plaignent. Oui, le gouvernement, t'as voté? Non, je ne vais pas voter, moi. Ah bon, bah alors, te plains pas. Vous avez prié, ne vous plaignez pas. Tout est dans les mains de Dieu, vous le savez, parce que vous étiez avec lui quand les choses se sont décidées. Ne vous plaignez pas, mais continuez à prier, car nous avons un pouvoir dans la prière. La prière, la parole prophétique, la prière que nous prononçons devant ces portes, ces prières-là sont efficaces, mes frères et sœurs. Nous l'avons constaté de nombreuses fois, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des gens. C'est pas contre des gens qu'on en a, mais contre des êtres spirituels qui sont rebelles à Dieu et contre des êtres qui sont aussi, comment dire, qui animent des êtres de chair et de sang qui sèment la pagaille. La nouvelle lune, c'est le moment du commencement des nouvelles activités humaines. Pour la nature, c'est un nouvel ordre. Alors, c'est vrai, nous devons prier en tout temps, c'est vrai. Mais nous avons à prier particulièrement à ces époques stratégiques de l'année, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et il nous dit ce qu'il faut faire. Car c'est pour nous le moment d'exercer notre pouvoir sur la terre de façon très efficace, ces moments-là. Comme je vous le disais, les sorciers le savent et ils maudissent particulièrement tout le monde, les églises, vos familles, tout le monde, les nations, à ce moment-là. Vous savez, j'ai quand même plus de 20 ans d'Afrique derrière moi et j'en ai vu des histoires de sorciers. Et puis alors ici, des sorciers, il y en a aussi. Hein, mais ils ont pignon sur rue et puis on les appelle pas des sorciers, ils ont des noms beaucoup plus jolis, puis ils ne sont pas à la piste comme en Afrique. Mais ils sont tout aussi maléfiques. Tout ce que nous lions ou délions sur la terre est tenu pour lier, délier dans le ciel. C'est notre pouvoir. Il faut l'utiliser. Il est bon de contrer les actes des ténèbres quand ils sont en train d'être faits. On va lire Matthieu chapitre 18, verset 18. C'est le texte dont Raphaël s'était servi quand il a prêché l'évangile le soir où je me suis converti. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Est-ce que vous vous rendez compte, le pouvoir que vous avez? Je vous dis encore, c'est Jésus qui dit, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons un pouvoir, mes frères et sœurs. Nous avons un réel pouvoir. Dieu fait ce qu'il veut et il est bon d'être à côté de lui pendant qu'il fait ce qu'il veut. Nous montrons notre solidarité. En fait, sur terre, nous sommes là pour ça. On est là pour ça, mes frères et sœurs, pour servir Dieu. Dieu premier servi. Les portes célestes sont en partie, 8 sur 12, des portes pour laisser passer les princes de ténèbres, des esprits méchants, des dominations, des puissances, des autorités qui sont dans les lieux célestes. Vous connaissez les versets. Ils concoctent des plans contre vous, contre votre famille, contre votre pays, contre la paix dans le monde. Et vous, vous priez pas. Vous priez sans stratégie, n'importe comment. Est-ce que vous allez être passif? Ou est-ce que vous allez prendre les choses au sérieux maintenant? Nous n'avons plus le temps de nous amuser. Jésus revient bientôt et il faut être de son côté vraiment en toutes choses, et surtout dans la prière. Nous avons le pouvoir de repousser les ennemis derrière leurs portes et de fermer ses portes au nom de Jésus. On leur claque la porte au nez. Vous savez, il y a un temps pour chaque chose, nous dit la Bible. Et les choses qui se produisent sur la terre passent par ces portes célestes. La Bible nous dit que toutes ces puissances, ces dominations, ces choses de ténèbres sont dans les lieux célestes. Et Enoch va plus loin, nous dit il y a des portes, elles s'ouvrent à certains moments. Et la majorité des chrétiens l'ignorent. Comme je vous le disais, les paroles prophétiques que nous prononçons devant ces portes à ces moments précis sont autant d'obstacles que nous dressons contre les ennemis de Dieu qui, lui, combat dans les cieux. Vous allez me dire, s'il combat dans les cieux, il n'a pas besoin de nous. Si, il a besoin de nous. Pourquoi est-ce qu'il nous dit de prier ? Arrêtez de dire que Dieu n'a pas besoin de vous. Nous sommes ses collaborateurs. Nous sommes ses serviteurs. Nous avons à faire ce qu'il dit que nous avons à faire. On va lire Osée, chapitre 4, versets 6-10. Osée 4, 6-10. Mon peuple est détruit, pas seulement Israël, hein, mais l'Église. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, ou que tu l'as ignorée, ou que tu n'as pas voulu savoir, parce que ça t'embête, parce qu'il y a un Nouna qui passe à la télé, alors tu n'as pas le temps. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu as un sacerdoce, oui, toi. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, c'est-à-dire les règlements, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez que ça va loin. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtirai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Qui a dit ça? C'est le Seigneur, c'est notre Dieu, par la bouche son prophète Osée. Oh, il n'avait pas des cartes de visite prophète international ou intergalactique. Non, parce qu'il disait, ça arrivait. N'écoutez pas n'importe quel prophète, n'écoutez pas n'importe quelle personne qui vient vous raconter des histoires et des balivernes. Ainsi me ment le Seigneur, tu vas voyager, tu vas te marier. Oh, l'abondance t'a localisé. Oh, tu vas devenir le premier millionnaire de ta famille. Foutaise de foutaise. Faux prophète, taisez-vous au nom de Jésus. Non, mais... qui est concerné par cette prophétie? Ceux qui savent pas, ceux qui manquent de connaissances, et ceux qui trouvent que ces choses sont ridicules. À ces gens du peuple, mais aussi aux sacrificateurs, aux pasteurs, aux prêtres, aux soi-disant prophètes à la noix de coco. Oh, c'est un fruit africain, la noix de coco. C'est pas ma faute, hein. Faut dire qu'en France aussi, on en a des faux prophètes, hein. Oh là là. Ils disent, il y en a, alors faux prophètes, il y en a un, il dit plus je suis prophète, il dit, je suis un eschatologue. Je suis un... comment il dit ça? Il dit... je sais plus. Mais il se trompe tout le temps. Il y a encore des gens qui donnent de l'argent. Mais faut-il être bête? Alors là. Je vais me faire engueuler parce que j'ai encore dit des gros mots. Je m'en fous! Je dois dire ces choses. Alors c'est vrai, il est aussi écrit que personne ne vous juge. Alors on va lire Colossiens 2, 6. Est-ce que je l'ai ? Je ne sais même pas si je l'ai. Colossiens 2, je pense en Colossiens 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet soit au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a pas besoin de mettre un jour à part pour se reposer. Ça ne veut pas dire. Mais que personne ne vous juge. Alors moi, je ne vous juge pas. Je vous dis ce que l'apôtre dit de ne pas juger. Donc je ne vous juge pas. Mais de même, ne me jugez pas. Je ferai ce que je crois devoir faire, repousser mes ennemis et les ennemis, tous les ennemis de Dieu et du peuple de Dieu derrière leurs portes. Si vous ne voulez pas le faire, libre à vous, je ne vous juge pas. Car tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Alors, je vais vous lire ça dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, verset 13. Alors, si je commence. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Il y a des gens qui pensent que telle viande, c'est impur, mais il dit, il n'y a rien d'impur, c'est impur pour ceux qui croient que c'est impur. Bon ben voilà, ne jugez pas, laissez-le. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Si vous êtes une centaine de personnes dans une église, et que dans cette église, il y en a 20 qui disent qu'il ne faut pas manger de porc parce que c'est diabolique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les 80 autres arrêtent de manger du porc pour être gentils avec les 20 qui disent que manger du porc c'est diabolique, ou qu'ils aillent se faire voir ailleurs, qu'ils créent leur secte ailleurs, puis qu'ils arrêtent de manger du porc, mais qu'ils ne viennent pas enquiquiner les 80 qui veulent manger, et qui ne voient pas que c'est impur. L'apôtre Paul dit, il n'y a rien d'impur. C'est impur pour vous qui pensez que c'est impur, mais ce n'est pas impur. Mais bon, il ne faut pas choquer non plus, il ne faut pas faire exprès pour embêter. Par contre, ceux qui jugent et qui embêtent ceux qui mangent, ils jugent. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, il faudra approuver les hommes quand même aussi, hein. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, c'est bien, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui pour ton frère est une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. C'est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin pour ne pas choquer quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que c'est bien de ne pas manger de viande. Hein, les végans? Moi, je ne juge pas, je vous dis la vérité, c'est tout. Cette foi que tu as, garde-la pour toi, devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Chez nous, c'est difficile de ne pas manger de porc. Hein, on aime bien ça. Paul dit bien ce qu'il veut dire. T'as une conviction, garde-la pour toi. Mais, vu ce qui se passe dans ce monde, est-ce que je peux garder ça pour moi? Ce que je vous ai dit là jusqu'à maintenant. En disant, bof, les gens ont peur, mais c'est pas bof. Moi, les gens souffrent, mais bon, bref, tant pis. Les agriculteurs souffrent, oh, c'est pas grave, il n'y en a qu'un par semaine qui se suicide. On va pas en faire tout un plat. Bon, je me taire, je vais garder ça pour moi. Je vais pas en parler. Puisque l'apôtre Paul dit, t'as une conviction, garde-la pour toi. Eh ben non! Je garderai pas ça pour moi. Si vous en voulez pas, ça vous regarde. Et puis vous n'avez pas le droit de me juger. Mais je veux dire aux agriculteurs, et je veux dire aux chômeurs, et je veux dire aux gens qui ont peur, et je veux dire aux gens qui n'ont pas des grosses retraites et qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois. Il y a des grands-mères de 80 ans qui vont faire les poubelles derrière les supermarchés pour pouvoir manger. Je veux vous dire, tenez bon. Dieu tient tout sous son contrôle. Invoquez son nom. Invoquez le nom de l'Éternel. Repoussez vos ennemis derrière leurs portes. Vous savez, je reçois des comptes de la part d'une organisation qui gère tous les sites. Et à part Facebook, j'ai le site révélationbible.fr que je vous invite à aller visiter et je vous invite à vous y inscrire. Eh bien, en recevant ces comptes, je m'aperçois que la majorité de ceux qui m'écoutent sont des Congolais. Bonjour les Congolais. Au Congo, les chrétiens sont assassinés, persécutés pour leur foi au Congo. Et je me tairai ? Non ! Vous rigolez ? Je vais me taire ? Je vais faire ma grande folle à faire « Oh, Alléluia, Jésus est bon, Alléluia, Alléluia, Kalalala, Shabalala, Shibidibidi, Poum, Poum, Tralala, Poupouip. » Et puis je vais danser dans les églises, je vais me taire et faire le pitre. Non ! Je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Tenez ferme dans la prière, mes frères et sœurs du Congo. Tenez ferme. Soyez prudents, ici à la communauté, on prie pour vous. Et pas seulement à la communauté, il y en a encore d'autres qui prient pour vous. J'ai vu dans l'organisme qui s'appelle Portes Ouvertes, 365 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Ça veut dire un chrétien sur sept. Et je me tairai ? Non, je ne me tairai pas. J'invoque le nom de Jésus sur eux. Et quelqu'un veut me juger parce que je parle de la nouvelle lune et que je dis, comme Enoch dit, qu'il faut prier à ce moment-là parce que c'est un moment stratégique pour repousser nos ennemis derrière leurs portes. Non, je ne me tairai pas. Puis si ça ne vous plaît pas, je m'en fous. Comme de mes premières couches, je m'en fous. Non, mais la prière, ah, la prière. C'est pas seulement demander à Dieu que tout aille bien, C'est pas faire la liste comme on fait la liste quand on va chez Carrefour ou chez Leclerc pour dire voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'ai... Ou alors comme les enfants ils écrivent au Père Noël, j'ai été bien sage, j'aimerais bien que tu m'envoies un vélo, puis une PlayStation, et puis. C'est pas ça la prière. Oh, c'est aussi ça, bien sûr, on faisait pas que ça. C'est crier à Jésus, Seigneur Jésus, reviens! C'est ce que demande le Saint-Esprit et c'est ce que demande l'épouse qui dort pas. Apocalypse 22. Je vais vous le lire parce que vous pourriez douter que c'est vrai. Apocalypse 22, 17. Un des derniers versets de la Bible. Et l'Esprit est majuscule. Et l'épouse de Christ, disent, viens! Et que celui qui entend, qui comprend, dise, viens! Et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Viens, Seigneur Jésus. Il y en a ras-le-bol de ce monde. Je ne sais pas pourquoi. On est quand même terriblement attaché à ce monde. Hein. Il y a une chanson en français qui dit « Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir, personne ne veut mourir. Moi, je veux mourir, moi, je veux partir avec Jésus, je veux m'en aller de ce monde pourri. J'en ai marre quand je vois la folie, la méchanceté, la cruauté, la bêtise. » Je me réjouis de partir. L'apôtre Paul aussi disait « La mort m'est un gain. » La prière, c'est aussi exercer son pouvoir pour lier les démons avec autorité au nom de Jésus. Ah, je vois des vidéos. Enfin bon, je vais arrêter parce que bon. Laissez les vierges folles s'amuser. Laissez-les s'amuser. Laissez-les. Ça leur fait un bien fou. Comment leur interdit d'aller dans les boîtes de nuit? Moi non plus, je ne vais pas dans les boîtes de nuit. Mais je n'ai pas besoin de me défouler au culte le dimanche matin parce que je n'ai pas été dans la boîte de nuit samedi soir. Mais c'est... Bon. Notre communauté aime prier. Comme Jésus nous a dit de prier. Car après avoir lié les démons, lié les gens, délié les gens captifs, je sais que Dieu n'est pas contre ce que je fais. Et tout ce qui va arriver, c'est sous son contrôle. Et on n'a rien à craindre. Car toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28, 31. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, pas selon une mode. Je me rappelle que je me suis converti en 1968, personne se roulait par terre, personne dansait dans les églises. Puis, attendez, quand je dis danser, c'est pas du Fred Astaire non plus, hein, ce qu'ils font. C'est pas du Georges Charkiris, c'est du... Ils sautent, ils font des espèces d'acrobaties. Quand je me suis converti, c'était comme ça. On me dirait, oui, mais... Alors tu dis, c'était mieux avant. Oui, c'était mieux avant. Franchement, c'était mieux avant. Dans chaque réunion où j'allais, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis le premier jour, j'ai toujours vu ça. Puis les modes ont changé, c'est bizarre, hein, c'est comme ça. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût appelé le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? personne. Personne. Il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à quoi ? À son Shabbat, à entrer dans son repos. Hébreux, chapitre 4, verset 1, 3. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, comme le vierge folle. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, aux Juifs. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Ils ont obéi, puis au bout du moment, ils en ont eu marre. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans le repos de Dieu parce que Dieu a dit dans sa colère, eux-là qui ont refusé Jésus, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eût été achevées depuis la création du monde, il n'est pas toujours en train de se reposer, mais disons qu'il travaille dans le calme et la confiance, dans la tranquillité. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est écrit, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car si Josué leur eût donné le repos, par la loi, hein, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est pas facile d'entrer dans le repos de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes entrés dans ce nouveau jour, dans ce nouveau repos. Et ce nouveau jour, c'est maintenant, verset 7. C'est quand maintenant ? C'est pas lundi, c'est pas mardi, c'est pas mercredi, c'est pas jeudi, c'est pas vendredi, c'est pas samedi, c'est pas dimanche. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Alors que tout semble aller de travers dans ce monde, efforçons-nous chaque aujourd'hui d'entrer dans ce repos. Et puis d'y rester. Chaque matin, au lieu de vous faire du souci, comme le font les sans-dieux ou les complotistes, laissons le Seigneur agir dans nos vies, louons-le, car ce nouveau aujourd'hui, c'est le jour du repos de Dieu et c'est aussi le nôtre. Nous y sommes chaque jour. Chaque jour. Et vous savez, pendant le Shabbat, pour les Juifs, ça commençait le vendredi soir et ça se terminait le samedi soir, lorsque la troisième étoile apparaissait dans le ciel, c'est-à-dire à peu près 40 minutes, je crois, après le coucher du soleil. Pas le dimanche matin, comme m'a dit un frère qui... Enfin bon. Il y avait des choses à faire, et il y avait des choses à ne pas faire le jour du Shabbat. Et nous, le jour de repos, nous faisons ce qui est à faire, mais dans ce repos, nous sommes dans le calme et la confiance. Nous faisons les choses dans le calme et la confiance. On va lire Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans d'autres versions, c'est marqué que sera votre repos, votre Shabbat. Alors vous êtes des élus de Dieu. Et vous avez besoin d'être affermi, j'ai besoin d'être affermi tout le temps. Mais à quoi ça sert d'être affermi si on ne réussit pas dans sa vie? Vous avez des chrétiens, oh, ils sont affermis. Mais qu'est-ce que je suis affermi? Ah, je suis affermi dans la parole de Dieu. Oui, et vous regardez leur vie, ils vivent dans des gourbis, c'est affreux, quoi, je veux dire, c'est... Eh bien, le secret se trouve dans 2 Chroniques 20-20. Je vous le lis, je vais terminer là-dessus. 2 Chroniques 20-20. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez affermi, vous serez ferme. Confiez-vous dans ses prophètes et vous réussirez. Donc, vous devez vous confier en Dieu et vous devez vous confier dans les prophètes, c'est-à-dire les porte-paroles de Dieu. Pas ceux qui se disent prophètes. Non, ceux qui se disent prophètes en général ne le sont pas. Confiez-vous en Dieu et vous serez ferme. Vous ne serez pas ballotté par tout vent de doctrine et de machin, de bêtises et de gnagnoterie, comme on dit en Suisse, ou de bedoumerie. C'est aussi des mots suisses, j'aime bien ces mots suisses, parce que dans les mots suisses, il y a quelque chose de bedoumerie. Je trouve ça, c'est un bon mot. Vous serez affermi. Vous ne serez pas emporté à tout vent de doctrine, vous ne serez pas à la merci du prophète qui vous dit moi j'en ai vu un l'autre jour, alors il priait pour une femme dans l'église, hein. Alors il lui tâtait les nénés comme ça, tcha tcha tcha, au nom de Jésus, pata 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 pata, après il lui tâtait les hanches, il lui tâtait les fesses. Mais c'est quoi ça? Ça se dit prophète? Mais comment il y a des gens qui sont assez bêtes pour rester dans des trucs pareils? Mais foutez le camp de là, sortez de là. Soyez affermis, confiez-vous en Dieu et dans ses prophètes, mais les vrais prophètes, pas les prophètes à la noix de coco, quand ils disent quelque chose, ça n'arrive pas. Nous, on en a eu un prophète, on était en conversation avec notre notaire, alors on disait, voilà, on veut vendre le château, combien vous pensez qu'il vaut, il faudrait faire une estimation, et puis le prophète, le saint prophète, t'es juif en parenthèse. Il disait, ce château ne se vendra pas, Dieu me l'a dit. Et le notaire qui était catholique, il dit, Dieu vous parle? Il dit, oui, Dieu me parle, même pendant que je suis en train d'enseigner, parce qu'il était à l'éducation nationale, il enseignait, pas les mathématiques, hein, juste 1, 2, 1, 2, tigidigidi, tagadagada, la gym. Je reviens contre la gym. Ce château s'en ira pas. Il s'est vendu quelque temps après. Fausse prophétie. Je ne suis pas les gens qui donnent des fausses prophéties. Il avait si dit que je mourrais au mois de septembre 2025. 2015. Voilà, je vais mourir en septembre 2015. Je suis encore là en 2024. Ne croyez pas les faux prophètes, mettez-les à l'épreuve pour savoir s'ils viennent de Dieu. S'ils ne viennent pas de Dieu, next. Les virer de votre vie, sans état d'âme. On ne suit pas un faux prophète, on ne le suit pas. Si vous voulez être affermi, confiez-vous en Dieu. Si vous voulez réussir, confiez-vous dans ces prophètes, les vrais, les hommes, les vrais, les femmes, les vrais prophètes, ceux qui annoncent véritablement la parole de Dieu, comme je vous l'ai fait ce matin. Amen. Et je ne dis pas que je suis prophète, mais je suis porte-parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans sa paix. Et puis obéissez aussi. Amen. Au revoir. À vendredi.